Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas tenir le micro dans la main, sinon je vais me faire disputer par Jacques. Sinon, on va faire chut. J'avais une question à vous poser avant de démarrer. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Alors on va répondre, oui, ça va, ça va. Il y en a qui vont répondre de temps en temps. De temps en temps. Et franchement, moi j'ai été secouée par la louange ce matin. J'ai été aussi secouée par vos visages. Est-ce qu'on a cette chance quand on est là, vous voyez, c'est de vous voir tous. Et je me disais, mais Seigneur, moi je suis heureuse là. Je suis heureuse là. Je vois des visages qui cherchent la face de Dieu. Et je m'aperçois que là, je trouve quelque chose qui est une étincelle d'éternité. Et franchement, c'est du fond de mon cœur que je vous dis ça. Ce matin, j'étais vraiment heureuse en vous regardant. Donc je voulais vous le partager, parce que je pense que c'est précieux. Alors j'étais secouée par la parole de Colette aussi, hein, qui parle d'une maison nettoyée. J'ai fait du ménage pendant 2 jours, j'ai rigolé, j'ai dit à Christine, oui, oui, oui. Bon, admettons. Et franchement, le Seigneur nous rappelle qu'il faut être à son écoute, qu'il faut être humble, qu'il n'y a que lui qui peut dire, qu'il n'y a que lui qui peut faire, même s'il veut faire au travers de nous. C'est lui qui peut faire et pas nous. Et hier, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter, Seigneur? Qu'est-ce que je vais bien leur dire? Alors, je pense que toutes les personnes qui ont eu un jour à donner un partage ont rencontré ça. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire, Seigneur? Ça m'a pris du temps, puis toujours rien, puis les heures passées, puis toujours rien. Enfin, voilà, quoi. Embêtant, quand même. Et le mot qui est venu, c'est bonheur. Bonheur. La recherche du bonheur. Et donc le Seigneur m'a conduit un petit peu dans les psaumes. Vous allez me dire, les psaumes c'est un livre pour femmes, c'est des poèmes et tout ça. Moi je dis non. Les psaumes c'est pas seulement un livre pour les femmes. Les psaumes c'est un livre pour tout le monde, même si c'est extrêmement poétique, même si ça fait appel aux émotions, c'est sûr. Les psaumes c'est un livre très très puissant, très très puissant. Et le psaume 4 au verset 7 nous dit « Qui nous fera voir le bonheur ?» C'est une question que David a posée, le roi David, qui était un roi puissant, qui était un roi guerrier. Qui nous fera voir le bonheur? C'est très ancien, donc la question n'est pas nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui, un petit peu en filigrane, on retrouve dans la vie de tout individu. Qui nous fera voir le bonheur? De génération en génération, que cherchent les gens finalement? Le bonheur? C'est une quête universelle, c'est à la limite pathétique quand on regarde, quand on voit un petit peu comment les gens cherchent leur bonheur, comment ils se battent pour trouver leur bonheur. Ça, quelque chose de pathétique, quelquefois même de tragique. Au fond de nous-mêmes, il y a un passage qui dit « Dieu a mis en tout homme la pensée de l'éternité ». Et je pense que c'est vrai. Au fond de nous-mêmes, on garde le sentiment qu'on n'est pas venu ici pour être malheureux. Le Seigneur n'est pas quelqu'un de malveillant. C'est pas vrai. Vous êtes d'accord avec ça? On n'est pas venu au monde pour être malheureux. Inconsciemment, on garde au fond de soi une espèce de nostalgie d'un paradis perdu. On sait que notre place, c'était dans la présence de Dieu. C'est ça le paradis. Alors on l'a représenté avec des images, avec tout un tas de choses un peu, enfin pour enfants quelque part. Mais le paradis c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et on reste quelque part orphelin de cette présence de Dieu. À l'évidence, l'être humain a besoin de connaître le bonheur. Au moins un certain bonheur pour avoir tout simplement le sentiment de vivre, d'exister. Qui nous fera voir le bonheur? Dieu nous donne la réponse dans la suite du poème, hein, dans le psaume 4, à partir du verset 7. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est simple, c'est clair. Le bonheur qui ne se trouve pas dans ce qu'on a, dans ce qu'on fait, mais dans la relation. Le bonheur, c'est d'abord la relation avec Dieu. Un Dieu éternel, un Dieu créateur, celui qui nous donne la vie et qui sait exactement ce qui nous convient, même si quelquefois nous, on n'y comprend plus rien. Il y a bien des fois où dans ma vie, moi, j'ai pas trop compris. Je sais pas pour vous, mais je vous partage vraiment ce que moi j'ai vécu. Le Seigneur veut notre bonheur. Ce bonheur-là ne dépend pas des circonstances. Dans la Bible, le mot « heureux » est utilisé au moins une centaine de fois. Alors, je vous rappelle les béatitudes, hein. Heureux, mais il y a plein d'autres passages où le mot « heureux » est utilisé. Son message est porteur d'une espérance, d'une vie qui apporte à tout homme qu'il accepte un bonheur serein, durable, celui qui ne dépend pas des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La vie, c'est d'abord un état intérieur, la vie avec Dieu. La source du bonheur, la source de mon bonheur, la source de ton bonheur se trouve en Dieu. Lui seul peut véritablement rendre l'homme heureux. Au moyen de la paix, au moyen de la satisfaction qu'il met dans un cœur qui se confie en lui. Et j'ai trouvé au psaume 16 des choses qui creusent encore. Le psaume 16 creuse encore cette notion de relation avec le Père. Je vous invite à prendre le psaume 16 avec moi. C'est un cantique de David. Il ne va pas très bien, David, au départ, hein. Il cherche la protection de Dieu. « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai part à leurs sanglantes libations. » Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. On sait qu'à l'époque, on sacrifiait des vies, on sacrifiait des animaux, quelquefois des vies humaines. Et David ne voulait pas être de ce genre de sacrifice. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois, et on vient de prendre la scène. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Et à partir du verset 7, on voit des moyens qui sont intéressants. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce psaume 16 qui est un psaume prophétique sur Jésus aussi, qui n'a pas vu la corruption, vous le savez, hein. Au verset 5, Éternel, ma part est la coupe où je bois. C'est déjà une image aussi de cette relation qui passe par le sang de Jésus. Et au verset 7, c'est comment ça marche. Comment ça marche, cette relation. Je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit éclaire ma pensée. Ça, sont les songes que le Seigneur peut nous donner. C'est un sujet de joie pour l'enfant de Dieu que d'être conseillé, voire même averti bien souvent. Le Seigneur nous donne des messages si on y prend garde, il nous avertit. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Ça, c'est le résultat de la relation. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Certaines versions, mon esprit est dans l'allégresse. Un esprit dans l'allégresse, c'est possible que si l'âme, elle s'élève. Hein. Mon corps repose en sécurité. Là, on a les trois éléments qui nous constituent. Mon cœur est dans la joie, c'est le siège de mes émotions. Mon âme est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Corps, âme, esprit. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, comment ça se fait que ça ne marche pas tout le temps? Comment ça se fait que je ne vois pas venir le bonheur? Comment ça se fait que dans ma vie, quelquefois, c'est si dur? Je me suis posé cette question, je me suis dit, mais Seigneur, ta parole me dit heureux. Ta parole me dit le bonheur est en toi. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas d'abord? Et je me suis dit, mais finalement, Jo, est-ce que tu n'as pas un peu fait les choses à l'envers? Si mon corps me fait mal, et vous savez, les uns les autres qui me connaissaient, vous savez que quelquefois mon corps me fait mal, voire très mal. Si mon âme est en panne, ça ne vous arrive pas quelquefois que votre âme elle soit en panne? Pas de sécurité. Pas ou peu de prières, pas beaucoup de la parole de Dieu. Mon âme est en panne. Alors mon cœur est troublé, mon cœur est en peine, mon cœur va pas bien. Alors j'ai envie de vous dire, reprenez le psaume 16, on va remettre les choses à l'endroit. On va remettre les choses à l'endroit. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 9 ? Mon cœur est dans la joie. Pourquoi ? Bah regardez au-dessus, verset précédent. Parce qu'il est près de moi. La joie, c'est le résultat de la proximité avec Dieu. La joie, c'est le résultat de l'intimité. Faute de quoi, on ne peut pas avoir cette joie. Il m'éclaire et me conseille, et je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Ça, c'est la condition de la joie. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Et je le dis pour moi-même, hein, quand ça dérape, quand ça fait mal, quand j'ai mal, quand je suis mal, quelque part, il y a de ça, il y a de ça. C'est pas lui qui m'a lâché, c'est moi qui ai lâché sa main, hein, je le sais. Hein. J'ai beau le savoir, là, hein, faut que ça descende, faut que ça descende. Si je ne garde constamment fixé les yeux sur l'Éternel, tout le reste est impossible. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas possible. Je ne peux pas avancer si je ne garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Alors voilà, j'ai réglé ma peine de cœur. J'ai trouvé d'où ça venait. J'ai réglé ma panne spirituelle. Comment va mon corps? Je sais d'où viennent les mots. Quelque part. Comment va mon corps? Mais si je puise, si je creuse dans la parole de Dieu, je vais les trouver, les réponses. Le Seigneur me les a rappelées, les réponses, simplement parce que j'ai dit, Seigneur, montre-moi, aide-moi. Au psaume 73, psaume 73, quand mon cœur s'est grissé, quand mon cœur était aigri, quand je me sentais pas bien à l'intérieur de moi-même, hein, quand je voyais le résultat des gens qui réussissent dans la vie, hein, et que je me sentais bouffée de l'intérieur, on dirait aujourd'hui. Et on voit, un peu plus loin dans le psaume 73, « Ma chair et mon cœur peuvent bien se consumer. » Ma chair et mon cœur peuvent bien se consumer. C'est à la fin du psaume 73. « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Donc comment va mon corps? Ça n'a pas d'importance. Que tu sois costaud, que tu sois marathonien, ou que tu marches avec une canne, ça change quoi? Ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ma chair et mon cœur peuvent bien se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et quand on a ces points d'ancrage dans la vie, je peux vous dire que ça change tout. Ça change tout. On peut avoir mal, on peut être fatigué, on peut prendre de l'âge, on peut être jeune aussi, hein, et être en peine, c'est possible, bien sûr. Ma chair et mon cœur peuvent bien se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, se répéter, comme une proclamation. Parce que quand on proclame, vous savez que la parole est créatrice, quand on proclame devant Dieu, mais on proclame aussi devant des autorités qui ne voudraient pas qu'on le dise. Hein? Donc tenez compte de ça. Ce n'est pas des choses que l'ennemi aime entendre. Donc il faut qu'on lui rappelle, il faut qu'on lui redise. Ma part à moi, c'est de garder ta parole, ô Éternel. Ça, c'est précieux. Pas d'importance que tu sois fort ou pas. Et je me suis souvenue de cette phrase qui a été donnée à Gédéon. Ça se trouve dans Jude. Pour ceux qui voudraient relire Gédéon, c'est Jude au chapitre 6. Juge 6, verset 14, où l'Éternel parle à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Or Gédéon, c'était un costaud, hein, capable de faire tomber un temple simplement avec ses bras. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a un qui est capable de faire ça. Pardon ? Ah, ouais, mais bon. C'est un costaud Gédéon, hein. Il a fait des choses assez extraordinaires. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça. Quand Dieu nous dit « va avec cette force que tu as », est-ce que vous pensez que c'est une force physique ? Je pense pas. Hein. L'essentiel est ailleurs. J'ai dit Gédéon à la place de Samson, je pense, hein, c'est ça. Hein. L'essentiel est ailleurs, de toute façon. L'essentiel, c'est compte sur l'Éternel, car il a 1000 moyens de te délivrer. Quand ça va pas bien, ben, rappelle-toi, repasse ces paroles dans ton cœur. Et moi, je me souviens d'avoir dit au Seigneur, tu as 1000 moyens, dans les 1000, il y en a bien un pour moi. Croyez pas ? Dans les 1000 moyens, il y en a bien un pour moi. Un moment où franchement, ça n'allait pas. Et je pense que la parole de Dieu passait, repassait dans notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit « Lis ma parole, prie tous les jours, cherche ma face. » Et quand ça n'ira pas, la parole de l'Éternel te reviendra. La parole de la Bible te reviendra. Compte sur l'Éternel, car il a 1000 moyens de te délivrer. Sur les 1000, il y en a un pour toi. Prends-le, saisis-le. Au psaume 41, au verset 4, j'ai trouvé une notion intéressante sur la maladie. Hein? Parce qu'on sait que Dieu est tout-puissant. On sait, Ésaïe nous dit qu'il a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies. C'est écrit, donc c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça ? Et quelquefois, il y a une espèce de chronologie, il y a une manière de faire. Et encore une fois, on ne comprend pas toujours la manière de faire. Au psaume 41, verset 4, ça nous dit « L'Éternel le soutient, c'est-à-dire son enfant, c'est-à-dire nous, le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche, il lui refait son lit. » Ça, c'est dans la version Semeur. C'est intéressant. Il y a une autre version qui dit « Il aide à quitter sa couche. Il aide à sortir de son lit. » Deux notions intéressantes. Pour moi, soignante, ça me parle. Ça me parle peut-être plus parce que justement, et Véronique, elle me dira pas le contraire, quand on est dans ce métier, faire un lit, refaire un lit, aider à sortir d'un lit, ça a du sens. Tu le soulages. C'est un peu bref, je trouve, comme traduction, tu le soulages. Aider à refaire un lit, c'est aller au plus près du malade. Vous êtes d'accord ? C'est prendre soin, c'est être dans la notion du prendre soin. Aider à quitter, à sortir de son lit, c'est encore prendre soin. Et Véronique, tu es d'accord avec ça ? Il y a des gens, c'est dur de les faire sortir de leur lit. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont trop fatigués, ils ont peur de tomber, etc. etc. C'est dur de quitter son lit. C'est dur de quitter son lit de souffrance quelquefois. Et quand c'est une souffrance psychologique, c'est dur aussi de quitter sa souffrance. Et le Seigneur est celui qui va refaire ton lit quand tu as besoin de te reposer et qui va dire « Top, on arrête ». Vous vous souvenez de ce prophète qui s'est endormi ? Il a dormi, l'ange l'a secoué, lui a donné à manger, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est recouché. Vous vous souvenez de ça ? Hein ? Quelquefois, le Seigneur te dit « Je refais ton lit, je remets la couverture, tu te reposes. Tu te reposes en moi. » Quelquefois, il va t'aider à sortir de ton lit. Parce que c'est le temps pour toi que tu as peur de quitter tes craintes, tu as peur de quitter cette souffrance, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as peur, et lui va t'aider à en sortir. Donc les deux notions, vous voyez, dans deux traductions, elles sont intéressantes l'une et l'autre. Et quelquefois, il va te dire, comme Jésus a dit au paralytique, « Prends ton lit, tu roules ton lit et tu vas dans ta maison. » Ça veut dire quoi ça ? C'est une injonction, ça veut dire « Maintenant, c'est moment de faire. » T'es plus paralysé, t'es plus brisé par la situation, tu roules ton lit et tu files dans ta maison et tu commences par évangéliser ceux de ta maison. L'évangélisation commence par les tiens. C'est intéressant. Trois façons de faire du Seigneur qui sont pas en contradiction les unes avec les autres. Trois façons qui ont leur temps. C'est le temps de Dieu. Il va te remettre une couverture. Il va t'aider à sortir de ton lit. Et quelquefois, ce sera l'injonction, c'est stop, on arrête, tu te lèves. Tu te lèves, tu roules ton lit, c'est plus le temps de te reposer, et tu vas prêcher d'abord à ceux de ta maison pour aller ensuite vers les autres. Voilà trois notions intéressantes sur la maladie, sur la manière dont le Seigneur s'y prend. Je vous ai parlé du bonheur, de la quête du bonheur, de la recherche du bonheur. Pour certains, ça va être les biens matériels. Quand on avance en âge et qu'on a eu quelques couacs de santé, ça va être la santé, bien évidemment, bien évidemment. Mais quand on n'a plus tout ça, quand on n'a plus tout ça, quand on l'a jamais eu, il y a des gens qui n'ont jamais été riches, qui ne le seront jamais. Le Seigneur dit, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change rien. C'est toi qui es précieux, c'est ton âme qui est précieuse à mes yeux. C'est ton cœur que je veux. C'est ça l'important. Comment se fait-il qu'on soit pas épargné ? Comment se fait-il qu'il se passe plein de choses dans notre vie ? Physiquement, psychologiquement, matériellement, dans nos relations aux autres, comment se fait-il ? Et on a la réponse dans le 1 Pierre, au chapitre 4. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas étonnés, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des épreuves, j'en ai connues. La première démarche, c'est certainement pas la réjouissance. Parce qu'on est humain, parce que ça nous fait mal, parce que c'est difficile. Et pourtant, Pierre, qui n'a pas été épargné non plus, on le sait, qui a fini terriblement sa vie, on le sait, Pierre nous dit « Réjouissez-vous ». Car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans sa gloire. Vous participez aux souffrances de Christ. Moi, j'avoue que pour moi, c'est encore un mystère. C'est encore un mystère et on le partageait avec Jean-Luc et Annette cette semaine. C'est l'apôtre Paul qui disait « J'ajoute à ce qui manque aux souffrances de Christ ». Je dis « Manque quoi ? Étouffé ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est venu pour nous emmener dans son cortège de gloire. Ça, je le sais. Ce que je sais, c'est qu'il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. C'est ça, être participant aux souffrances de Christ. C'est ça, accepter tout ce qui vient de Dieu. c'est être au plus près de son cœur. Et ça, c'est très, très important. C'est même vital. Au verset 15, on a quelque chose d'intéressant qui, moi, m'a fait sourire. Que personne n'ait à souffrir comme meurtrier, comme voleur, ou parce qu'il s'est mêlé des affaires des autres. Magnifique quand même, hein ? C'est magnifique. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petite faute, il n'y a pas de petit machin qu'on peut planquer dans un coin. C'est aussi grave de se mêler de ce qui ne nous regarde pas que d'être un voleur ou un meurtrier, fin de citation. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Que personne n'ait à souffrir. Souffrez pas pour des choses que vous pouvez éviter. Il y a bien assez comme ça. C'est pas la peine de tendre le bâton pour se faire battre. Combien de personnes cherchent le bonheur et le trouvent pas, ne trouvent jamais parce qu'elles le cherchent là où il est pas, finalement. Elles se compliquent la vie. Elles veulent bien faire parce que je pense que les gens cherchent, en tout cas quand on a trouvé le Seigneur, on cherche à bien faire. Mais si tu cherches à bien faire avec tes moyens à toi, si je cherche moi à bien faire avec mes moyens, excusez-moi, mais je ne vais pas aller loin. Je sais très bien de quel bois je suis faite. Je sais très bien que je ne vais pas m'en sortir. Et la parole de Colette ce matin était très intéressante à ce niveau-là. Laisse un petit peu tomber, quoi. Laisse un petit peu tomber ce qui n'est pas prioritaire. Replace tes priorités. Tes priorités sont où ? Matérielles, relationnelles, professionnelles, tous les L du monde vont rien changer. Le seul L qui compte, c'est Eli. C'est le L qui dit l'Éternel. Ça, c'est important. Ça, c'est ma priorité. Je pense qu'on a un peu, dans notre monde en tout cas, voire beaucoup, oublié cette priorité, qui est l'intimité, une communion personnelle avec le Créateur. Et on voit les résultats. Les gens cherchent des solutions économiques, les gens cherchent des solutions pour contrecarrer la guerre, et ils cherchent pas ils mettent pas les bonnes priorités. La bonne priorité, c'est Seigneur. Seigneur, toi, tu fais. Toi, tu peux faire. Notre civilisation moderne a cru pouvoir se passer de Dieu. Notre civilisation a cru pouvoir se passer des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Quand on dit valeurs morales, on passe pour quelqu'un. Oulala, il va nous faire une leçon, quoi. Hein ? Et pourtant, la parole de Dieu est vivante. Tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est pas moi qui le dis, hein. Et pour conclure, le Seigneur nous dit, t'inquiète pas, t'as pas la force en toi, t'es pas costaud, c'est pas ça que j'attends de toi. J'attends pas que tu sois costaud, j'attends ton cœur. C'est vraiment ce qu'il m'a dit à moi, et je vous le partage ce matin. Ce que j'attends, c'est pas ta force, c'est pas ton raisonnement, c'est pas que tu cherches des solutions, que tu cherches toutes les solutions pour tous les soucis. C'est compte sur moi. Et Matthieu 11, au verset 28, que vous connaissez bien, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Vous savez, ce joug, il est magnifique parce que c'était, en fait, c'était comme ça, hein, deux espèces de, comment dirais-je, d'arceaux. On pouvait mettre deux animaux. Et le Seigneur nous a donné cette image-là parce qu'on n'est jamais tout seul à porter le joug. Mon joug, on va se dire, ça y est, c'est reparti, on va encore porter. Pas du tout. Il est à côté de nous et il porte avec nous et il chemine avec nous. Mon joug est doux et mon fardeau est léger, bien plus léger que tous ceux que tu te mets sur le dos. toi-même. Et enfin, pour terminer, je vous laisse sur ce passage de 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 7, qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Hein ? On a commencé par « Qui me fera voir le bonheur ? Il est où ce bonheur ?» Hein ? Le Seigneur nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, soyez bénis, hein, dans le nom du Seigneur ce matin.